De loin en loin, on a entendu la voix de Maupassant nous parler de Flaubert. Une parole lucide, chaleureuse, presque filiale. Flaubert, dans les dernières années de sa vie, n'a pas eu d'amis plus proches que Guy de Maupassant. Et c'est à lui que s'adresse sa dernière lettre, le 3 mai 1880. Dans les derniers temps, pour s'adresser à Guy, Flaubert commençait ses lettres par « Mon cher fils ». Alors on a voulu voir dans ce « Mon cher fils » une sorte de reconnaissance en paternité réelle. D'autres ont estimé que non, c'était une façon de parler, une façon de parler à un disciple. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas, et cette histoire, vous allez voir, est beaucoup plus compliquée qu'on ne pourrait le croire. Je vais essayer de vous la raconter. Le dimanche 4 novembre 1849, après 3 jours de halte à Marseille, Flaubert s'embarque avec Maxime Ducamp à bord du paquebot Le Nil, qui lève l'ancre à destination d'Alexandrie. C'est le départ pour le grand voyage en Orient, qui va durer presque 2 ans, et dont Flaubert va revenir complètement transformé. On ne sait pas très bien ce que Flaubert a fait au cours des 3 journées précédentes. Bizarrement, ses notes de voyage, toujours précises et fournies, sont presque nulles pour les journées du jeudi au samedi. Presque rien. En montant sur le pont du bateau, ce dimanche 4 novembre 1849, Flaubert, tout à coup, remarque une jeune fille de 18 ans qui, dit-il, ressemble en moins bien à Laure Le Poitevin. À cette date, Laure Le Poitevin, qui est une amie d'enfance et qui a le même âge que Flaubert, n'a donc plus du tout 18 ans, mais 28, comme Gustave. Et elle ne s'appelle plus Le Poitevin, mais Laure de Maupassant. Elle a épousé, sur un coup de tête, en 1846, 3 ans plus tôt, un certain Gustave de Maupassant, un homme qu'elle n'aimait pas. Cette mention de Laure par Flaubert dans ses notes serait tout à fait anodine, sans conséquence, sans cette date du 4 novembre 1849. Or, la coïncidence est tout de même très étrange. C'est 9 mois, pratiquement jour pour jour, après ce 4 novembre 1849, que Laure met au monde le petit Guy de Maupassant. Question. Et si Laure, qui aimait tendrement Gustave Flaubert, était venue incognito passer 3 jours à Marseille, entre ce jeudi 1er et ce samedi 3 novembre 1849, cette fin de semaine sur laquelle Flaubert reste mystérieusement silencieux dans ses notes? Mais non, la réalité est moins romanesque et en fait beaucoup plus profonde. En montant sur le paquebot, Flaubert ne rêve pas de Laure parce qu'il vient de lui faire un enfant. Guy est certainement le fils de l'obscur Gustave de Maupassant, le mari légitime dont Laure se séparera d'ailleurs quelques années plus tard. Laure voue à Gustave Flaubert une admiration amoureuse depuis l'enfance, mais elle n'a sans doute jamais pensé devenir sa maîtresse. Non, si Flaubert croit reconnaître Laure au moment même où elle est en train de concevoir Guy, c'est pour une toute autre raison, dont les conséquences, contre toute attente, auront paradoxalement le même résultat, celui de faire de Flaubert le véritable père du petit Guy de Maupassant. Pour y voir clair, il faut revenir en arrière, reconstruire le scénario passionnel qui sous-tend toute l'intrigue et convoquer un témoin qui n'existe plus en cette année du 149, mais dont l'ombre va peser très fort sur toute cette affaire. Je veux parler de Alfred Le Poitevin, le grand frère chéri de Laure, l'ami de cœur de Flaubert. Un jeune homme brillantissime, disparu brutalement l'année précédente, en 1848, à l'âge de 32 ans. Alfred, Laure et Gustave se connaissaient depuis l'enfance. Les familles étaient liées, Gustave Flaubert était le filleul de M. Le Poitevin père, et le père de Flaubert était symétriquement le parrain d'Alfred. Madame Le Poitevin mère était une amie d'enfance de Madame Flaubert mère. Donc les enfants se connaissent depuis toujours, ils passent des vacances ensemble et ils s'adorent. On ne saura jamais exactement jusqu'où sont allées les relations d'amitié amoureuse entre Gustave et Alfred. Mais ce qui est sûr, c'est que Flaubert n'en connaîtra jamais plus d'aussi intense jusqu'à la fin de sa vie. Même avec le bon vieux Bouillet, ça ne sera pas la même chose. Il s'agissait avec Alfred vraiment de passion. De son côté, Laure est profondément éprise de son frère, Alfred. Elle assiste sans jalousie, mais avec un peu d'envie quand même, à cette sorte de relation amoureuse qui se noue entre Gustave et Alfred. Alfred, qui avait 5 ans de plus que Gustave, lui a tout appris. Les femmes, le rêve, Sade, la passion pour la pensée pure et la beauté, Spinoza, les mauvais lieux, la croyance dans l'absolu. Et il s'était juré, solennellement, de partir ensemble pour un long voyage en Orient. jurait que rien ne les séparerait. Mais, en 1846, Alfred s'est marié. Gustave a cru qu'il allait en mourir de chagrin. Sa sœur Laure aussi. Alfred avait épousé une certaine Louise de Maupassant. Aussitôt, par esprit de symétrie, c'est-à-dire à défaut de pouvoir épouser son frère adoré, Alfred, Laure le Poitevin décide d'épouser le frère de Louise, le frère de la nouvelle femme de son frère, un certain Gustave de Maupassant. Pour Laure, Gustave de Maupassant n'est qu'un mari de substitution, dans un mariage de raison, dont la raison est le désir incestueux, être la belle-sœur de son frère, à défaut de pouvoir devenir sa femme. Ce mariage perdra très vite toute signification pour Laure après la disparition d'Alfred, et elle ne tardera pas à se séparer de ce mari. Pour Gustave, le mariage d'Alfred avait été un arrachement. Il en avait pleuré pendant des semaines, il s'était juré de ne jamais lui pardonner. Il était resté inconsolable. Et puis brutalement, en 1848, Alfred tombe malade, il agonise. Flaubert accourt, Alfred meurt entre ses bras. Il le perd pour la deuxième fois, mais maintenant sans espoir de retour. Le 7 avril 1848, Flaubert, écrasé de chagrin, raconte à Maxime Ducamp ses derniers moments avec Alfred. Je l'ai gardé pendant deux nuits, je l'ai enseveli dans son drap, je lui ai donné le baiser d'adieu. La pression de ses membres froids et raides m'est restée toute la journée au bout des doigts. Il était horriblement putréfié, les draps étaient traversés. Nous lui avons mis deux linceuls. Quand il a été ainsi arrangé, il ressemblait à une momie égyptienne, serrée dans ses linges, et j'ai éprouvé, je ne puis dire, quel sentiment énorme de joie et de liberté pour lui. C'est peut-être idiot, mais cette joie, cette liberté et cette momie égyptienne, je n'arrive pas à croire qu'elles sont tout à fait sans rapport avec leur vieux projet de partir tous les deux en Orient. Partir vivre ensemble une vie plus libre. Alfred a pris la tangente tout seul, il est parti vers l'Orient absolu. Gustave le dit à Maxime, avec qui, quelques mois plus tard, il s'embarque pour de bon, vers Alexandrie. Donc, le 4 novembre 1849, à défaut de partir avec Alfred, Flaubert quitte Marseille avec Maxime et, par une sorte de métonymie inconsciente, croit reconnaître Laure sur le pont. Au même moment, ou à peu près, la véritable Laure est en train, par défaut également, de concevoir le petit Guy de Maupassant avec un homme qui n'est pour elle que la pâle métaphore d'Alfred. Voilà le scénario initial. La suite, malgré son économie un peu délirante, peut se déduire d'une manière presque mathématique. Pour Laure, Guy qui a été conçu un an après la mort d'Alfred sera ce que le père biologique n'a pas pu être, c'est-à-dire un véritable double d'Alfred, une réincarnation de ce jeune homme si intelligent, si exceptionnel, qui reste l'homme de sa vie. Alfred va revivre à travers Guy. Elle y est résolue. Elle se sépare de Gustave de Maupassant, et parallèlement, tandis que cet enfant grandit, un autre homme, qui porte le même prénom que le père de Guy, Gustave, Gustave Flaubert, est en train de devenir, pour de bon, ce qu'Alfred aurait pu être. Un romancier brillant, un artiste reconnu de tous pour son intelligence et son talent exceptionnel. Mais Gustave, pour Laure, est encore plus que cela. Il est celui qui aime toujours Alfred. Et celui qui en a été aimé. Le seul homme en qui Alfred reste vivant. Aux yeux de Laure, la situation est donc évidente. Flaubert est le seul qui puisse prétendre à la véritable paternité de Guy. Patiemment, avec douceur, mais aussi avec obstination, Laure va tout faire pour conduire Flaubert à accepter ce rôle. Et de son côté, Flaubert, qui a tout compris à demi-mot, entre dans le scénario en sachant à l'avance que tout est joué. L'histoire des relations Flaubert-Maupassant repose donc sur cette connivence tacite entre Laure et Gustave, une sorte de contrat qui associe, à l'ombre de la mort d'Alfred, le souvenir d'un inceste désiré et une amitié amoureuse inoubliable. Laure n'a plus de mari, son fils est privé de père, Flaubert n'a pas d'enfant, Alfred va pouvoir revivre à travers l'affection réciproque que l'un et l'autre vont reporter sur le neveu d'Alfred, le nouvel Alfred. Au fil des années, les relations filiales entre Guy et Gustave se resserrent. Le jeune homme devient le disciple du vieux maître qui lui apprend le métier. Avec la patience d'un véritable père, Flaubert use de toute son influence pour lancer le jeune écrivain. Il lui présente Zola, Tourguenieff, Banville, Daudet, Huysmans. À titre de revanche, le jeune Guy exécute pour le romancier toutes sortes de tâches documentaires ingrates, notamment pour Bouvard et Pécuchet. Flaubert s'est laissé volontairement piéger par la stratégie de Laure qui lui offrait un enfant. Mais il a aussi repris cette idée de parenté à son compte, avec un projet personnel, faire de Guy le véritable écrivain qu'aurait pu devenir Alfred, et en faisant évoluer cette relation filiale à son rythme, à lui. Les lettres entre eux se multiplient, et il est assez bouleversant de voir l'évolution, de suivre cette évolution de formules par lesquelles Flaubert s'adresse à Guy. D'abord, c'est mon cher ami, mon bon, puis mon cher vieux solide, mon pauvre chéri, puis mon chéri. Arrivé à ce stade, mais on est en 1879, Laure estime que son pari est gagné, son rôle est terminé, elle quitte la scène. Elle sombre dans une crise de folie profonde dont elle ne sortira plus. En janvier 1880, Maupassant publie son premier vrai texte, Boule de Suif. Flaubert en est sûr maintenant, le petit Guy a tout compris. Il lui écrit « Il me tarde de vous dire que je considère Boule de Suif comme un chef-d'œuvre. Oui, jeune homme, ni plus ni moins, cela est d'un maître. » Lettre du 1er février 1880. Venant de Flaubert, le compliment n'est pas mince. Mais, on peut le noter, le maître continue à vouvoyer le disciple, comme il l'a toujours fait. L'ultime reconnaissance va venir quelques jours plus tard, le 13 février 1880, au moment où Flaubert apprend que Maupassant va passer devant les tribunaux pour outrage aux bonnes mœurs. Là, c'est le baptême du feu. C'est l'affaire Bovary qui recommence. D'un seul coup, Flaubert se met à le tutoyer et enfin, lui écrit « Mon cher fils ». La semaine suivante, le vieil ours se redresse et monte au créneau pour défendre son ourson. Il publie dans la presse un article retentissant. On poursuit Maupassant pour les tendances immorales de son œuvre. Réponse de Flaubert, avec la théorie des tendances, on peut faire guillotiner un mouton pour avoir rêvé de viande. Il faudrait s'entendre définitivement sur cette question de la moralité dans l'art, ce qui est beau est moral, voilà tout, et rien de plus. Devant l'article, le parquet préfère abandonner les poursuites, merci papa, mais l'idylle filiale entre Gustave et Guy sera de courte durée. Deux mois plus tard, le 8 mai, Flaubert meurt au milieu des manuscrits de Bouvard et Pécuchet, terrassé par une congestion cérébrale foudroyante. Guy de Maupassant se retrouve donc orphelin au moment même où il vient de gagner un véritable père. Mais pouvait-il vraiment disparaître, ce père symbolique qui ressemblait de son vivant déjà si fort pour Guy à un autre fantôme? Il semblerait bien que non. En disparaissant, Flaubert passe le relais, mais accède aussi pour toujours à la présence d'une sorte de dimension intérieure, purement intérieure. Plus la mort du pauvre Flaubert s'éloigne, dit Guy de Maupassant, plus son souvenir me hante, plus je me sens le cœur endolori et l'esprit isolé. Son image est sans cesse devant moi, je le vois debout dans sa grande robe de chambre brune, qui s'élargissait quand il levait les bras en parlant. Tous ses gestes me reviennent, toutes ses intonations me poursuivent, et les phrases qu'il avait coutume de dire sont dans mon oreille comme s'il les prononçait encore. Guy de Maupassant n'a été que le premier fils de Flaubert. Depuis, des milliers, des millions peut-être sont nés, ou vont naître, un peu partout dans le monde. Il avait espéré, sans trop y croire, Flaubert. Et puis, qui sait, disait-il, je pense souvent avec attendrissement aux êtres inconnus, à naître, étrangers, qui s'émeuvent et s'émouvront des mêmes choses que moi. Un livre, cela vous crée une famille éternelle dans l'humanité. Tous ceux qui vivront de votre pensée, ce sont des enfants, attablés à votre foyer. Nous sommes tous des enfants de Flaubert. Son œuvre, ses lettres, ses manuscrits sont devenus notre maison. Et aussi une sorte d'horizon pour notre écriture. Aujourd'hui, demain, aussi longtemps que la langue vivra. On appelle ça la postérité. Un horizon bleu, tout bleu, Où est Flaubert? Là, maintenant, à l'instant. À l'instant où je vous parle. Il nous l'a dit. Au-dessus de la vie, il y a quelque chose de bleu et d'incandescent. On peut y vivre.